Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens.
Second marker.
Je les ai filmés, ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demy, la peinture, la famille et les puzzles.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Une all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Une all to vous. Non, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
On aimait son cinéma et on l'aimait elle, mais finalement tout se confondait. Elle et ses films et Agnès. Agnès Varda est partie hier à 90 ans, cinéaste, pionnière, féministe et modèle unique. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, salut Agnès, bienvenue à toutes et à tous.
Peut-être allait-elle nous corriger, nous engueuler, nous amuser aussi, nous surprendre toujours à chacune de nos rencontres. Nous la réécouterons ce matin. La dernière fois, c'était en décembre 2017, Agnès Varda venait, première femme et première française, d'être couronnée d'un Lifetime Achievement à Hollywood. Regard, curiosité, désir, cinéaste, disait-elle, c'est une vie. Nous reviendrons sur son parcours entre photo, fiction, doc et art plastique. Femme pionnière, oui, de la nouvelle vague et femme modèle de bien d'autres cinéastes qui suivront sa trace des années plus tard. Bonjour Claire Burger.
Bonjour.
Femme, vous êtes cinéaste, attachée à une région et filmant comme Varda, de vrais gens en les mêlant à vos histoires, comme dans ce nouveau film, votre deuxième. C'est ça l'amour, tourné à Forbach, un moment de crise dans une famille et au centre, un homme fragile, le père incarné par un acteur remarquable, Bouly Lanner, si ce n'est pas le rôle de sa vie, ça y ressemble. C'est ça l'amour est sorti mercredi, à côté de votre film cette semaine, Compagnie Rose, La Flore 3, Steel Recording, ou Sergio et Sergueï. C'est parti.
Tu te balades seule? Tu souffres pas trop de la solitude?
Seule, c'est bien.
J'ai passé des Noëls seule. Le 25 décembre, je voyais se baffrer. Moi, j'étais seule.
Mais quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement.
Ça dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend ou qui te prend pas. Puis voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas encore, encore mieux.
Je m'en fous, je bouge.
Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. Je choisis un milieu. Un moyen terme entre la solitude et la liberté.
Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini.
Courageuse et rebelle, Sandrine Bonner, l'héroïne de Saint-Antoine, Illois d'Agnès Varda, qui avait fait une énorme enquête à l'époque en 84 et avait découvert ce nouveau phénomène des filles sans abri et dessiné cette marginale, cette résistante. Elle n'est pas aimable, disait Varda, qui ne rattrapait pas par la veste pour dire elle est quand même sympa cette fille. Je voulais qu'elle soit franchement désagréable et qu'on n'ait pas envie de l'aider. Radicale son héroïne, radicale son film, Lion d'or à Venise en 85. Agnès Varda, 1928-2019, qui démarre sa carrière comme photographe pour Jean Vilar et se découvrit plasticienne à 70 ans. Varda, pionnière et seule femme de la nouvelle vague, signera une douzaine de fictions et de nombreux documentaires, Laurent, des docs faits main et un regard curieux, décalé, poétique et politique.
Bah oui, hier, en préparant cette émission, je me suis dit, comme on fait dans ces occasions-là, bah voyons le livre sur Agnès Varda, histoire de se rappeler ce qui a déjà été écrit sur elle, ses films, son univers, sa personnalité. Si singulière et si attachante. Mais je n'ai rien trouvé. Pas un livre en français consacré à Agnès Varda.
Non.
Pas un seul. Des articles de presse écrites, oui. Des archives audiovisuelles comme celles que nous écouterons aujourd'hui, oui. Des catalogues d'expositions, oui. Des bonnies de DVD comme elle tenait à les appeler, oui, évidemment. Et pour notre plus grand plaisir. Mais un livre sur Varda, comme on en a fait des dizaines sur Truffaut, Godard, Romer, René et Demy aussi, bien entendu, ça oui, mais Varda, décidément, non. incroyable, stupéfiant, incongru et peut-être même misogyne, cette absence-là. Depuis hier, hélas, il est déjà trop tard pour bien faire. Mais on ose espérer qu'un jour, malgré tout, cet outrage sera réparé. En attendant, on imagine ce que cet ouvrage bourré d'images, mais pas seulement, aurait pu être. Forcément, un livre pas comme les autres. Un livre qui parlera du cinéma de Varda et du reste, mais à sa manière à elle. Parce que pour parler de Varda, il ne faudra être ni sagesse ni calme plat. Et ce livre sera donc de briques et de brocs, comme un livre de Pérec, avec des listes, des objets recensés, une disparition par-ci, une rue de Paris par-là, avec un amour immodéré du coq à l'âne faussement improvisé. Comme la structure de son film « Sans toi ni loi », qui sous son aspect documentaire décrit un chemin de croix avec ses stations qui sont autant de travelling raccordés les uns aux autres par un objet ou un signe qui clôt une séquence et introduit la suivante. Car Varda était une cinéaste complète, scénariste, réalisatrice et, chose rare, monteuse. Mais comment raconter une histoire si on n'en maîtrise pas soi-même le cheminement? Et dans ce livre, il y aurait également de superbes photos de Gérard Philippe au Festival d'Avignon. Car Varda, c'était d'abord et à l'origine un œil, un regard aussi transperçant que bienveillant. On y trouverait aussi ainsi des photos et des évocations de lieux. Car Varda filmait tout comme un cinéaste qui se respecte. D'abord des corps, dans des lieux. On irait de Sète et du quartier de la Pointe Courte au village du Languedoc viticole en faisant un détour par les murs peints de Los Angeles et pour en revenir toujours et encore à la rue Daguerre qui est à Varda ce que la gare de Perpignan était à Dali. Et dans ce livre idéal, rêvé et forcément enchanté, il s'en échapperait justement des notes de musique et des chansons joyeuses qui parlent de choses graves comme le viol, l'avortement, le cancer, la peur de mourir, la peur d'aimer ou celle de vivre. Ce livre qui n'existe pas sur Agnès Varda, il serait rempli de grains de sable pour y marcher pieds nus et enrayer la machine. Des enveloppes et des cartes postales, des recettes de cuisine, des bouts de pellicule, un plan du 14e arrondissement et un indicateur des marées à Noirmoutier et même une pomme de terre en forme de cœur. Bref, il ressemblerait à une installation de Varda, l'artiste plasticienne. Car dire que Varda était une cinéaste, c'est insuffisant, réducteur et beaucoup trop étouffant pour elle. On y verrait dans ce livre, bien entendu, l'écho d'une petite trentaine de films, pas plus. Tous des documentaires et des fictions vraies, parce que ce qui intéressait Varda, c'était de saisir le temps qui passe et le capter dans ses boîtes à images. Comme quand elle filmait les mains parcheminées de son amant, ami, mari, marin, Jacques, au seuil de sa vie, avec cette même attention, cette même délicatesse qu'elle filmait ses fameux glaneuses et glaneurs en leur donnant la parole pour dire haut et fort qu'ils sont bien vivants. Écoutons l'une d'entre elles pour conclure, et c'est aussi une façon de dire haut et fort qu'Agnès Varda est bien vivante, même si elle a rejoint Cléo, Mona, Pomme et les autres, sur une plage évidemment.
Glaner, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Finis de ramasser pour pas gaspiller voilà. ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus, parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glaner avec mes voisines, avec mes... le blé, comme le riz aussi, se faisait avant. Eh bien, voilà, j'avais mon grand tablier, hein. On glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y avait. Une journée au soleil, quand il y a des bestioles qui vous piquent, des moustiques, c'est pas trop agréable, mais enfin, ça nous plaisait.
Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. Claire Burger, en tant que jeune cinéaste, Varda a été, j'imagine, un modèle dans sa liberté, son éclectisme et son côté artisanal aussi, non?
Oui, c'est vrai que même l'humilité apparente, la fausse naïveté de son dispositif sont des choses qui m'ont beaucoup touchée. La fibre sociale aussi, enfin c'est quelqu'un qui est important, mais qui est aussi important pour une femme cinéaste parce que c'est un modèle.
Féministe?
Un modèle féministe, mais surtout un modèle féminin dans un monde où il y en avait peu.
Ça reste un peu le cas.
Voilà. Et puis je pense que quand on a envie de faire du cinéma en tant que femme, on a besoin que d'autres aient ouvert la voie avant nous et elle fait partie de celle-là.
Une figure tutélaire.
C'est ça.
Mon rapport au cinéma n'est pas prétentieux. Je ne veux ni imposer une vision ni faire œuvre, disait-elle. Et pourtant, cette œuvre très originale a été saluée, couronnée à Hollywood fin 2017 par cet Oscar. Vous vous rappelez, Laurent, après, Varda nous avait apporté la version miniature de la statuette sur scène pour lui remettre sa récompense, Angelina Jolie.
You once said, you don't catch people's attention through normalcy.
I feel I should say, on behalf of all of us, thank you for being everything but normal. For being unique and daring and exceptional. For being Agnes.
I'm slightly shy and delighted to hear all these beautiful words about me. Yes. It makes me feel good, I have to say. And I hear them in the middle of Oscar land. I want to thank the four bright, beautiful, and intelligent women who spoke. And I have a little question. Are there no men in this room who love me to speak up?
Où sont les hommes? C'était le 11 novembre dernier, Agnès Varda, in la Mecca du cinéma, à la cérémonie des Governors Awards, que vous avez été remis cet Oscar d'honneur. Je le disais, à la première française et à la première femme réalisatrice. Vous réentendre, ça vous fait quoi?
Ça me fait rigoler. Parce que, effectivement, j'avais préparé un petit speech, mais j'ai ajouté, j'ai improvisé. Oui, en vérité, je me sens très bien, parce que ça fait de l'effet, quand même. Mais ça me fait de l'effet comme si on m'avait propulsé là. Il y avait aucune idée d'orgueil, j'ai gagné quelque chose. Il y avait l'idée que c'est presque une plaisanterie. N'empêche que c'est une petite cellule des Oscars qui est très cinéphile et qui chaque année choisit. Mm. Ça s'appelle le Governor's Award. C'est pas un Lifetime Achievement.
Oui, non.
Ils choisissent un chef opérateur, un recteur, des fois un acteur, tout ça. Et donc, il m'avait choisi. Alors, il vote ça. Il faut avoir plus de 66% des votes. Voilà, un truc comme ça. Et donc, je me suis retrouvée là. Mais il paraît que ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient de me faufiler. Donc, ça veut vraiment dire que les gens qui m'ont choisi, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Et donc, la soirée était magnifique parce que tous les gens d'Hollywood étaient là. Mais c'est pas du tout comme la soirée fatale de février où ils sont tous alors en énervé parce que ils voudraient que ou gagner eux-mêmes ou gagner le... Donc il y a un truc de compétition qui est électrique, électrifiant aux vrais Oscars. Alors là ils viennent parce que c'est comme s'ils allaient à la cantine, les choix ont été faits, donc ils se retrouvent entre eux. Et il y avait dans la salle, et ça je me disais, moi qui ai jamais fait d'argent, un amoncellement d'argent, c'est-à-dire qu'il y avait Jennifer Lawrence qui est la star la plus payée, il y avait Tom Hanks, évidemment Steven Spielberg, Richard Gere, d'autres femmes très belles, Jessica Chastain qui a parlé. Et donc, toutes ces personnes représentées, 2 millions, 3 millions, 4 millions, j'étais en train de faire une espèce d'amoncellement de valeur en argent, en dollars. Alors, j'ai été obligée de dire, moi j'ai jamais gagné d'argent,
oui,
mais j'ai gagné beaucoup de prix. Et ça, c'est vrai que ça commence à bien faire, les prix, les statues. D'ailleurs, je vous ai amené pour vous faire rire. Voilà, c'est le format. Voilà, ça c'est l'Oscar. Mais là, il a 15 centimètres.
Parce que... il est un peu
mais en fait, il est grand, il est brillant comme ça. Et il pèse 3,9 kg, quand même.
Ouais.
En tout cas, je l'ai pris comme quand même la reconnaissance de mon travail par des gens de qui je n'attendais pas ça. Ouais. Et les mots qu'ont dit Jessica, Angelina, je ne sais pas s'ils les avaient écrits à d'autres gens. Et après, d'autres, même Steven Spielberg a parlé de moi. Alors on se dit, bon, mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a quand même plus de 60 ans que je travaille et que j'ai pas travaillé pour Hollywood. J'ai pas eu les concepts de fabriquer des films qu'ils ont. Vous savez, j'ai fait des choses très marginales. Alors, dans la marge où je suis, je me sens très bien. Parce que dans cette marge, je suis très connue.
Mais c'est cette marge qui a récompensé, justement.
Bien sûr.
C'est une forme d'exotisme, mais sans pittoresque. Et c'est cette marge-là qui le récompense.
Oui, c'est pour ça. Et... D'ailleurs, je voulais le dédicacer, puis j'ai loupé la ligne où je voulais le dire, que je dédicacer à tous ces jeunes qui se battent pour un cinéma comme ça, qui est un peu hors norme, hors code. Et c'est comme ça qu'on aime, nous aussi, le cinéma des auteurs, des créateurs, des cinéastes.
Bien sûr.
On va parler d'une nouvelle vague un petit peu, parce que vous y appartenez, en même temps vous vous sentez différente de tous ces garçons.
Vous savez, c'est un nom qu'on a donné des années après, aux cinéastes de 60 à 70. Mais si, c'est pas comme les surréalistes, ou Dada qui avait une ligne de conduite.
Une cohérence.
Ou les Nabi, ou tout ça. Non, nous c'était des gens. Et moi, j'étais trois fois de ma vie au Cahier du cinéma. Je ne peux pas faire partir d'un groupe. Alors, c'est comme la chanson, on est bande de coins, nous, tout seuls, mais Jacques Demy et moi, on faisait un peu, on était de nouvelle vague, mais c'est parce qu'on nous a dit ça après. Mais, bon, on m'a mis là-dedans, mais j'ai commencé avant, et je me suis jamais senti partie d'un groupe. Je trouve qu'on faisait pas le même travail. Ni René, voilà, qu'on peut pas mettre, on met tout ça dans la nouvelle vague, c'est pas, René Chabrol, c'est pas pareil.
Non, pas vraiment.
Et Dieu sait que Chabrol a fait un travail consistant sur tout le travail qu'il a fait contre et pour la bourgeoisie. Mais on n'était pas là-dedans du tout. Moi, j'ai toujours filmé des gens qui n'ont aucun pouvoir. Toujours. Ou des pêcheurs, ou plus tard des chômeurs, des squatteurs, des paysans. Parce que je pense que c'est ceux-là qu'on connaît moins bien. Et moi, j'apprends à les connaître, à les approcher. Et à les mettre un petit peu en valeur pour que d'autres gens les aiment. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Alors, au fond, c'est même formidable que certains documentaires, comme Les Glaneurs ou comme celui-là, rencontrent le public, parce que ça leur parle.
Dès que vous avez filmé, vous vous êtes senti cinéaste, dès le début?
Premier jour.
Premier jour.
J'ai fait un plan avec des pauvres gens, des pêcheurs, avec une famille où il y avait plein d'enfants. Et il y a une photo de moi à genoux, devant la caméra, devant cette maison. Et j'ai eu le sentiment aigu, quand j'ai fait le premier plan, je me dis, mais c'est ça. Ça, je suis maintenant. À partir de maintenant, je serai cinéaste.
C'est-à-dire, on ressent, comme Beckett disait, je ne suis bon qu'à ça. Suis bon qu'à faire ça. Beckett disait ça. Pourquoi vous êtes écrivain? Il répondait, je ne suis bon qu'à ça.
Moi, je suis une artiste multimédia, si j'ose dire, parce que j'ai été photographe, mais surtout maintenant, depuis quand même 10-12 ans, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais je fais des expositions.
Si. Nous sommes au courant, mais c'est l'image qui est le fil conducteur, quand même.
Et le son aussi, quand même.
Et le son aussi.
Quand même, j'ai fait une chose avec des veuves, on mettait des casques, on écoutait des confidences. Si, l'image et le son, mais ce qui m'a intéressé, c'était de changer un peu de proposition. Oui. Le cinéma, on sait que c'est pour une salle avec un écran. Les propositions d'artistes que je fais, on attrape l'espace. Il y a des chaises, il y a des choses. Alors, il y a beaucoup moins de gens qui viennent dans une exposition. Mais c'est un autre rapport. Oui. Et j'essaie de chercher ça. J'ai fait des triptyques pour qu'on voit trois images en même temps, qu'on soit un peu troublé. En fait, je travaille un peu.
Vous avez dit, on va finir par là, je n'ai jamais eu de problème d'inspiration. Dès que je n'ai pas d'idée, je vais dans la rue.
Ben oui. C'est ce que font les gens quand ils ne sont pas contents. Ils vont dans la rue.
Oui.
Et quand je n'ai pas d'idée pour faire un grand film, je vais dans la rue et du coup, je fais un documentaire. Parce que dans la rue, si on regarde la vraie vie, on trouve toujours des sujets formidables. Et c'est comme ça que très souvent, et puis peu à peu, d'ailleurs depuis l'an 2000, j'ai fait des installations et que des documentaires. Les vrais gens me fascinent, franchement.
Et la toute dernière fois, Laurent, c'est vous qui avez rencontré Agnès Varda l'été dernier dans Ciné qui chante.
Oui, nous lui avons fait parler notamment de Cléo de 5 à 7, dont elle a écrit les 4 chansons. Alors on lui a fait écouter un extrait, puis elle nous en a parlé ensuite.
Je savais très bien qui tu étais, ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque, ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement, je t'ai menté. Je t'ai menti.
Oui, non, il n'est pas là. Rappelez demain.
C'est trop difficile à chanter, ça, j'y arriverai jamais.
Bon, alors... Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais. Moi, perfidement, je t'ai menti, je t'ai menti. Je t'ai menti.
Non, c'est pas moderne, ça. L'air d'avant, il est mieux, il est plus...
Typique.
C'est ça. Bon, ben, je vais la prendre. Quoi d'autre?
Moi, je joue.
À quoi?
Moi, je joue, c'est une chanson. Tout à fait pour vous. C'est facile comme tout.
Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit. Et moi,
je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches, et moi, et moi, et moi, je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cornet, toi tu joues du banjo, et moi, moi je joue contre toi. C'est fou,
bien joué, tu fais électrocuter.
Il joue qui vergogne, joue au plus fortiche. Et moi, moi je m'en fous, je triche, m'en fiche, c'est fou.
C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson-là. Les paroles sont très jolies.
Et la musique, non?
Mais si, la musique aussi.
Agnès Varda, un mot quand même sur l'interprète de cette chanson et du film, Corinne Marchand.
Alors elle avait tout pour elle parce qu'elle était belle et grande. Ouais. Et le film, le sujet du film, de la beauté comme ça, éventuellement attaquée par le cancer, éventuellement fragile.
C'est l'histoire du film.
Ça lui allait bien. Et ce qui est intéressant et rare, c'est qu'elle chantait. Et que dans ce cas ici pris, dont nous parlons, il n'y a pas de playback. Enfin, s'il y a un playback qu'elle a fait elle-même, mais je veux dire que...
C'est elle qui chantait sa voix.
Avec Michel Legrand. Et toutes les chansons du film, qu'elle chante dans le film. Elle est, c'est sa voix. C'est agréable parce que, dans le cas des films de Jacques, pour des raisons techniques de voix, les Sœurs d'Orléac, Jacques Perrin, Michel Piccoli, étaient interprétés par des chanteurs qui avaient pré-enregistré les chansons. Et eux les avaient apprises. Tandis que là, c'était assez beau que ce soit elle.
Et puis, merveilleux contrepoint à l'histoire dramatique que le film raconte, ce moment-là de création.
C'est-à-dire, c'est un moment de... Elle raconte... Le film raconte une peur. Ouais. Et la peur, particulièrement dans les années 60, je crois que la peur du cancer a été tout d'un coup tellement violente. Vous savez, il y a des peurs collectives tous les 10 ans. Il y a une peur un peu plus forte que d'autres. Et on en parlait beaucoup. C'est pas que ce problème soit réglé, mais... Ça tombait bien pour moi que dans un seul film, je puisse concentrer les peurs diffuses. Et dans son cas, elle, c'était doublé et triplé par le fait qu'elle était très belle. Et que le rapport de la beauté et de la mort, c'est un sujet qui a interrogé les peintres, les artistes, les écrivains. C'est triste que tout le monde meure, mais on ne veut pas que la beauté meure, voilà.
Sans toi, Varda, titre si joliment Libération aujourd'hui. Pour conclure cet hommage, Romain Duris, dans 17 fois Cécile Cassard, de Christophe Honoré, qui reprend la chanson du film Lola, parole écrite par Agnès Varda, première et seule chanson écrite pour Demi. Et on vous retrouve juste après, Claire Burger.
C'est moi, c'est Lola. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour, c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, qui reçoit sans les dédommager, les hommages, et les braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées d'espoir, si vous les saviez, d'un énorme espoir insensé. Celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira « Toi, 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 c'est moi. C'est moi Lola. »
C'était Lola. Claire Burger, votre deuxième film après Party Girl et le premier que vous réalisez toute seule s'appelle C'est ça l'amour. Il est sorti mercredi.
Elles peuvent pas vivre avec moi. J'y arrive pas.
On n'exagère pas, elles vont très bien.
Mais pas moi. Il faut que tu me prennes. Tu peux pas leur faire du bien, pas pour l'instant. Je suis fatigué. Faut me laisser tranquille, je suis fatigué. Si t'as besoin d'un jour ou deux pour t'organiser,
Je vais trouver une solution. Je vais me débrouiller. Je peux les prendre aujourd'hui. Dis-moi.
Oui, promets.
Un homme fatigué, c'est Boulay Lanners, Mario, dans C'est ça l'amour, Claire Burger, qui depuis que sa femme est partie, tient la maison en désordre comme lui, et élève seule ses deux filles, Nikki, 17 ans, et Frida, 14 ans. C'est votre deuxième long métrage, je le disais, le premier toute seule. Tourné forcément à Forbach, votre ville, votre socle.
Oui, c'est vrai que j'ai fait la plupart de mes films là-bas.
Oui.
C'est ma ville natale, une petite ville à la frontière franco-allemande. Mmh. Et c'est intéressant pour moi d'explorer toujours le même territoire. C'est le même décor, mais à chaque fois changer d'histoire, même de classe sociale, d'ambiance et de raconter d'autres choses avec parfois les mêmes gens et les mêmes décors.
Et filmer la classe moyenne qui, dites-vous, est très compliquée à filmer. Autant les privilégiés, c'est facile, on les voit beaucoup dans les films et dans les grands appartements parisiens. Les très pauvres aussi, mais cette classe moyenne est plus compliquée à cerner.
Mais disons qu'elle peut avoir, elle peut donner l'impression d'être un peu ennuyeuse parce qu'elle n'a pas les obstacles peut-être des classes très populaires et puis elle n'a pas les grandes possibilités offertes par les moyens voilà, de la classe bourgeoise. Mais après, c'est une classe sociale, je trouve, qui est intéressante parce que justement, il n'y a pas d'effet, quoi. Il n'y a pas ces décors incroyables, il y a les petites choses, là, une administration, un théâtre, une maison assez simple. Et moi, j'essaie de plonger après dans l'intime de ces personnages, de ce qui leur arrive. Et même si c'est peut-être un peu une classe sociale qu'on voit peu, je pense que c'est une des classes sociales qui va beaucoup au cinéma, voir du cinéma d'auteur. C'est important qu'elle soit représentée aussi.
Qu'est-ce qui se passe quand vous tournez à Forbach, la réaction de la population?
Je crois qu'aujourd'hui, la population forbachoise est souvent en souffrance.
Oui.
Elle a des difficultés à envisager son avenir. Et je pense que d'être regardée, d'être écoutée, et puis de participer à des projets aussi comme ça, puisqu'il y a beaucoup de forbachois qui jouent dans mes films, c'est aussi une possibilité de voir autre chose, de faire autre chose, de se sentir regardée. Et j'ai l'impression que la population forbachoise, en tout cas, soutient mon travail. Et c'est toujours assez agréable.
Et vous avez choisi la maison du film, en fait, c'est la maison de votre père, parce que ce film est autobiographique. Mario, c'est un peu votre père dans la vraie vie?
Alors, je me suis inspirée de mon père et je me suis inspirée de l'histoire de ma famille. Et c'est vrai que j'ai tourné dans la maison familiale. Après, je me suis autorisée quand même certaines libertés et les personnages sont assez vite libres de vivre leur propre vie. Mais cet ancrage dans mon histoire personnelle ou l'histoire de ma famille, c'est important pour moi parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans mes débuts de cinéaste, j'essaye d'être au plus près de choses que je connais, que je ressens et dont je peux parler avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible.
Votre père vous a mené vers la culture?
Alors mon père est avide de culture, c'était extrêmement pénible quand j'étais petite, parce qu'il m'a traînée, je crois, dans toutes les expositions, tous les concerts possibles.
Il écoute du Mozart, comme le personnage dans le film?
Alors mon père écoute plutôt des valses viennoises, ou alors de la musique nouvelle.
D'accord.
Voilà, mais par contre, il a développé mon oreille, je pense, et je lui dois beaucoup aujourd'hui. Si je fais du cinéma, j'imagine que c'est parce qu'il m'a donné accès à la culture, dans un vrai souci de transmission, mais jamais comme un marqueur social. On débriefait d'ailleurs jamais à la maison en rentrant. Je suis incapable de dire ce que j'ai vu quand j'étais petite, mais ça m'a nourrie et ça m'a élevée dans tous les sens du terme.
Vous lui donnez un rôle féminin finalement, hein, parce que cette histoire, elle pourrait habituellement, elle arriverait à une mère, à une femme seule, mais là, tout ce poids féminin rentre chez Boulay Lanners et dans ce rôle.
C'est un père maternant.
Oui.
C'est un père maternant et en même temps que moi, j'aimerais qu'on puisse se dire que la paternité, c'est aussi ça. C'est pas seulement un rôle d'autorité, ça peut être un endroit où on met de l'affection, de la tendresse, de la dépendance affective, pourquoi pas. On me dit souvent que c'est un personnage vulnérable ou fragile. Moi, je le trouve aussi très courageux parce qu'il a le courage de dire qu'il l'aime, il a le courage...
De dire qu'il n'y arrive pas.
De dire qu'il n'y arrive pas. Ouais. Et c'est vrai que la paternité, c'est peut-être... Les femmes, aujourd'hui, on a intérêt à conquérir le pouvoir, mais je pense que c'est intéressant de penser la place des hommes dans la paternité, de la repenser, et j'espère que ce personnage peut être un modèle ou une représentation de la sensibilité des hommes.
Sa femme qui est partie, ce qui est bien, c'est que vous ne l'accablez pas, vous n'en faites pas un personnage négatif.
Alors peut-être parce que je m'inspirais de l'histoire de ma famille, je ne voulais surtout pas que le film soit un règlement de compte, mais surtout ça m'intéressait pas beaucoup de juger cette femme. Beaucoup d'hommes sont partis, ont quitté le foyer. Il y a des femmes qui partent aujourd'hui de plus en plus, et je trouve que c'est bien qu'elles en aient le droit. Alors ça peut être une souffrance pour les enfants, mais moi le fait que ma mère soit partie, au fond, ça m'a aussi appris que j'avais le droit d'être une femme autant que d'être une mère, et c'est aussi quelque chose qu'elle m'a transmis et qui est important.
On va écouter un extrait de cette femme et ses deux filles. Je voudrais signaler leur nom. La mère est jouée par Cécile Rémy-Boutang, c'est ça, et les deux filles, deux jeunes comédiennes assez exceptionnelles,
absolument
exceptionnelles. Justine Lacroix et Sarah Enoxberg, de futures grandes actrices.
J'ai un petit peu le droit de penser à moi.
Bah ouais, t'as le droit de reprendre ta liberté.
C'est pas la question, Frida. Ton père m'a jamais privé de liberté.
Mais ça va prendre combien de temps encore, exactement?
Dans à peine quelques mois, je pense.
Quelques mois? Tu sais que papa, il m'a frappé, hein. Il m'en a collé une.
Mais tu rigoles ou quoi? Il s'est excusé de un. De deux, c'est parce que tu le saoules en ce moment, c'est normal qu'il t'ait frappé. Elle est hyper chiante avec lui en ce moment.
C'est pas malin, Frida. Faut que tu comprennes que c'est dur pour ton père aussi.
Mais pour moi aussi, c'est dur, putain, j'ai pas envie de vivre avec lui, c'est clair.
Ma chérie, faut que tu sois patiente. Faut que tu soutiennes ton père. Et puis cet appartement, c'est un petit peu long parce que cet appartement, je vais pas le prendre toute seule. J'ai rencontré quelqu'un. Je vais bientôt vous le présenter.
Mais qui ça? Quelqu'un? De quoi tu parles?
Bah, elle a un mec. Tu croyais quoi? Qu'on allait vivre toutes les trois et tout comme ça? Non, mais pas du tout, hein. T'imagines si papa, il nous voit comme ça partir avec un mec qu'elle se tape dans son dos depuis des mois, genre?
Nikki, tu peux pas dire ça comme ça.
Mais c'est exactement
non,
ça.
Tu peux pas parler comme ça.
Papa,
ça.
Il va être tout seul. Il va être tout seul après. Et quand moi je vais partir, il y aura plus que toi.
Non, bah, vous barrez, vous faites votre vie tranquille. Et moi je dois rester avec lui pour le soutenir.
Pourquoi tu t'en prends à ta sœur? Arrête.
Je m'en prends à personne, je lui explique la situation.
Qu'est-ce que tu fais?
Mais je me casse.
Non, Frida, s'il te plaît, reste non. Là. Franchement, j'essaie de trouver les mots et tout, c'est pas facile. Et
pourquoi non, tu parles comme ça à ta sœur? C'est de ma faute là, sincèrement?
Non, bien sûr que non, c'est pas ta faute.
Voilà.
Bien sûr que non, c'est pas ta faute.
C'est l'envie de se casser.
Pierre Burger, face à ces deux actrices épatantes, face au Stradivarius qui est Bouly Lanners, vous payez le luxe de mettre Cécile Rémy-Boutang qui est votre directrice de production.
Ouais.
C'est incroyable.
Mais j'avoue qu'on lui a fait passer des essais parce qu'elle avait quelque chose, enfin vous avez entendu, elle a une voix très particulière, et puis c'est une femme qui est très belle et qui en même temps a pas les artifices peut-être de certaines comédiennes qui seraient beaucoup occupées d'elle et de leur physique. C'est une femme qui travaille, qui est nerveuse, qui est angoissée, qui est parfois fatiguée. Je trouve que ça se voit sur son visage, et j'avais envie d'une femme qu'on sentait aussi dans le travail, occupée, angoissée, coupable, et puis j'aime beaucoup travailler avec des non-professionnels, et c'était intéressant pour moi cette fois-ci aussi de pas seulement de faire jouer des gens de ma région, mais pourquoi pas aussi des gens de l'équipe. Ça a créé une ambiance aussi sur le plateau, une sorte d'aventure humaine collective où il y avait plus trop de frontières entre le réel, la fiction et les rapports entre les uns et les autres.
Et Bouly Lanners là-dedans alors?
Eh ben Bouly, il a été extraordinaire parce que c'est quelqu'un d'abord de très très généreux.
Ouais.
C'est vraiment quelqu'un qui a une humanité vraiment formidable, et il a eu la générosité aussi avec ses partenaires non pros d'avoir la patience parfois de les mettre à l'aise, de leur permettre de jouer en étant dans un certain confort avec lui. Et puis il a accepté de se laisser aller comme ça à un état qui est un état de vulnérabilité pendant tout le film, et qui est vraiment sur le fil et qui est pas évident, je pense, à incarner. Voilà,
il disait parfois qu'il y avait une heure entre action et coupé, c'est-à-dire que vous continuez à tourner, quoi.
Mais j'aime bien que les acteurs oublient vraiment la technique et oublient le tournage.
En une heure, ils peuvent le temps de l'oublier, ouais.
Oui, disons, enfin, il exagère toujours un petit peu, mais... Non, mais en tout cas, c'est vrai que les prises sont longues, mais c'est aussi pour que justement que les acteurs retrouvent, parce que chez les non-pros, il y a un peu ça aussi, retrouvent un peu ce qui se passe dans le jeu, par exemple le jeu des enfants, quand on joue au docteur, à la dinette, et qu'on croit à ce qu'on est en train de faire. Si je surdécoupais en faisant des petits pick-up et qu'il s'agissait de dire juste une phrase pour le gros plan, je pense qu'ils n'arriveraient pas à se mettre dans cet état. Et je fais de très longues prises pour qu'à un moment donné, ce qui se passe dans la scène prenne le pas sur la technique.
Mais c'est pas de l'impro.
Ah non, c'est pas de l'impro.
Vous en écrivez les dialogues.
Oui, voilà. Sur les films précédents, on écrivait avec mes co-réalisateurs les scènes, mais on donnait pas les dialogues parce que je pensais qu'il fallait que les acteurs puissent avoir leurs propres mots. Sur celui-ci, les comédiens jouent les dialogues, les ont appris par cœur, mais après, il s'agit de leur faire oublier oublier ce par cœur et ça s'est extrêmement bien passé, tant avec Bouli, professionnel, Antonia Burezi, professionnel, qu'avec tous les non-pros. Je me suis rendu compte que c'était possible, en fait.
Pendant qu'il perd son amour, elle, ces deux filles le découvrent. C'est très important, hein, ce portrait aussi, qu'il fallait portraiter tout le monde, quoi. Et ces deux filles et ces deux adolescentes, et notamment la petite Frida, qui, elle, découvre sa sexualité avec une copine de l'école. Quelque chose qui choque le père.
Alors, je pense que le père n'est pas homophobe.
Non.
Mais j'avais envie que le film, en fait, parle aussi de tous ces petits quiproquos qui ont lieu dans nos vies de famille, dans nos vies amoureuses. Tous ces moments où on a envie de protéger l'autre et où on se trompe en essayant de le protéger. On lui veut du bien, on lui fait du mal, on empiète sur sa liberté. Donc, le film repose un peu là-dessus. Et je pense que Mario, à juste titre, s'inquiète pour sa fille qui est en train de vivre un moment difficile.
Peur,
voilà.
Un père, quoi.
Voilà. Et donc, a peur aussi de sa sexualité en tant que gamine. Et elle prend directement ça pour de l'homophobie. Et tous ces quiproquos, ces incompréhensions, c'est un peu le cœur du film.
C'est rare de voir ça dans un film, c'est vrai, cette découverte de la sexualité à l'adolescence. Merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'il vous a fait du bien, ce film ?
Comme il nous fait du bien, nous.
Alors,
solide en passant.
Par rapport à votre vie.
Ma vie. Écoutez, je sais pas, j'aimerais que mon père entende que c'est une déclaration d'amour. Je ne suis pas sûre qu'il en soit capable, mais je l'espère, et peut-être que dans le fond, il le voit. Après, je sais aussi maintenant, pour avoir fait beaucoup de films avec mes proches, ou inspiré de ma vie, ou de celle de mes proches, je sais que le cinéma non plus ne répare rien. Par contre, c'est formidable pour nous, cinéastes, c'est vrai qu'on a la possibilité de créer un monde dans lequel on peut sublimer des choses, réparer des choses, mais ça nous appartient. Je ne sais pas si ça agit sur la vie.
C'est ça l'amour, c'est sorti mercredi. On va évoquer les autres
sorties.
Ouais, c'est ça qui est très beau. On va évoquer les autres sorties. On va commencer par La Flore, partie 3 de ce film Fleuve argentin, après le film d'espionnage. Une mise en abîme du cinéma, Laurent ?
Oui, parce que vous savez, le Balzac, à propos de la condition humaine, disait, la comédie humaine, pardon, il disait qu'il voulait faire concurrence à l'état civil. Bon, ben, je pense que l'INAS, il est sur cette voie-là. Sauf qu'entre temps, après Balzac, il y a eu le cinéma, et il intègre le cinéma à cette volonté de faire l'état civil. Alors, le cinéma, sa tour de Babel linguistique, on parle beaucoup de langues dans ce film, y compris le français, avec le cinéma, avec ses codes, avec ses genres, avec cette envie formidable de cinéma de raconter des histoires, de mettre une fois de plus en branle tout un processus de cinéma qui nous ravit, qui nous réjouit. C'est la troisième partie. Il y en a une quatrième qui se profile à l'horizon. Ce sera la dernière. Et je voudrais juste vous indiquer qu'à Toulouse, les Toulousains ont beaucoup de chance parce que ce week-end, ils vont pouvoir voir les deux parties. Entre aujourd'hui et demain, les quatre parties.
Pourquoi à Toulouse?
Eh ben, parce que c'est le beau festival Ciné Latino qui leur offre ce cadeau. Voilà. Eh ben, les Toulousains, ils pourront le voir en intégralité depuis ce matin jusqu'à dimanche soir. Mais sinon, les autres, allez, courez voir La Flore 3 en salle en ce moment et puis les deux premières parties également.
Still Recording de Saed Al-Battal et Ghiat Ayoub. Un conflit vécu de l'intérieur pendant 4 ans, de 2011 à 2015, deux étudiants syriens et d'autres ont filmé avec les moyens du bord leur quotidien à Douma, d'abord libéré par les rebelles, puis assiégé et bombardé par l'armée d'Assad. Résultat, ce doc de 2 heures sur 450 heures de rush, l'image est la dernière ligne de défense contre le temps. Ce propos ouvre le film, il s'adresse à d'autres jeunes Syriens, futurs reporters. Certains sont morts pour filmer ces images, qui tremblent parfois devant ces tableaux tragiques. Immeubles en ruine, cadavres qu'il faut enterrer, mais aussi la vie, le quotidien, la jeunesse qui a cru en la révolution, qui se réunit dans les appartements, graffe les murs, et organise des expos et font de la musique le tragique qui côtoie l'espoir. Dans un grand désordre, c'est vrai. Quant à la signification du titre Still Recording, ça filme toujours. On la découvre dans cette scène finale, ce dramatique plan séquence.
Ah, c'est un film vraiment extraordinaire à tout point de vue, parce que au fond, il nous dit c'est quoi filmer le réel quand ce dernier est à la fois surfilmé dans le monde entier, hein, on voit des images de la Syrie tout le temps, et sous-filmé parce qu'on ne voit rien de la Syrie, presque du racin, on ne voit rien réellement, et donc il nous la montre sous tous ses aspects et avec une volonté non pas d'être total, mais juste de dire voilà comment le cinéma peut réinvestir un champ qui est, dit-on, connu et en fait pas du tout. C'est un exercice éminemment salutaire, c'est vraiment là aussi du cinéma.
Avec des images folles, moi je me souviens de cette
incroyable.
Scène de ce jogger qui court au milieu des ruines,
oui,
c'est complètement
et puis une piscine à Damas, enfin etc.
Surréaliste.
Voilà. Oui, surréaliste.
Compagnie Rose de Alvaro Breckner, 1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques, les Tupamaros, sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire, jetés dans de petites cellules. On leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir. Compagnie Rose raconte donc ses 12 années d'emprisonnement. Et tout le film, pratiquement, se déroule dans leur cellule de misère, tient sur quelques mètres carrés, entrecoupé, oxygéné de flashbacks de leurs jours heureux. Au-delà du film politique, une étude intime et captivante sur leur capacité à résister à cette déshumanisation, tout ce que l'humain peut endurer en restant humain. On pense entre les lignes à Mandela et à ses compagnons. D'ailleurs, l'un de ces trois Tupamaros, José Pepe Mujica, deviendra en 2010 président de l'Uruguay. Un film qui doit aussi beaucoup à la puissance et à la subtilité de leur jeu, à ces trois comédiens, Antonio de la Torre, Alfonso Tor et Chino Darín. Ouais, c'est le fils de Ricardo Darín, et il est aussi beau et aussi talentueux. Laurent, on va terminer Sergio et Sergueï, qui est un film de Ernesto Daranas. C'est un très joli sujet. 1991, la guerre froide est terminée, l'URSS s'écroule. Sergueï, un cosmonaute russe, reste coincé dans l'espace, oublié par les soviétiques. À Cuba, à l'aide d'une fréquence radio, Sergio entre en contact par hasard avec Sergueï et va tout mettre en œuvre pour le ramener sur Terre. Mais sans le savoir, Sergio est sur écoute et espionné.
Oui, c'est le troisième long métrage de ce cinéaste Ernesto Daranas Serrano, dont on avait beaucoup, beaucoup aimé Chala en 2015.
Oui.
Et là, il fait autre chose. C'est-à-dire, c'est pas seulement, il y a de la chronique cubaine avec tout ce que charrie le Cuba des années 90, dans à la fois le pathétique et le joyeux. Il y a ça, mais comme il y a cette espèce de versant à la fois américano-soviétique, c'est passionnant. Et il mêle 2000 ans Odyssée de l'espace, Nathalie de Gilbert Bécaud, de la musique cubaine, des rhums cubains, des cigares cubains, évidemment. Il y a donc d'un côté le russe, de l'autre le cubain, il y a l'américain. C'est une sorte de mosaïque incroyable, de résumé de ces années aussi 90 dans ce lieu improbable qui est évidemment Cuba, mais pas seulement. Et à la fin, il se donne en plus le courage de partir, de décoller vers le fantastique, alors qu'il était dans un pluralisme plus grand auparavant. Donc vraiment, ce cinéaste de film en film, je dirais, progresse dans sa façon de prendre à bras le corps le cinéma.
On va terminer avec trois festivals importants. On va commencer par Alès Itinérance.
Et oui, bien sûr, depuis hier jusqu'au 7 avril, 200 films, dont des inédits, avec des hommages à Michel Sédoux, à William Carell, des expos, des concerts, et puis le regard du dessinateur Willem.
Beaune, le film policier, ça aussi c'est important, il y a une très belle programmation cette année, Laurent.
Du 3 au 7 avril.
On a le temps. Hein.
Oui, du 3 au 7 avril, avec 7 films notamment en compétition, dont Les Oiseaux de Passage, dont on vous reparlera.
Incroyable film sur l'origine des cartels.
Magnifique film qu'on avait vu à Cannes et qui sort enfin, si on peut dire. Et puis il y a un focus sur quelqu'un qui aimait beaucoup ce festival, notamment parce qu'il se passait à Beaune, au milieu des vignobles, c'était Claude Chabrol. Et il y aura un bel hommage à Chabrol pendant le festival.
Oui, par sa vie avec ce documentaire qu'on avait vu.
Exactement, voilà.
Troisième festival.
Alors là, c'est toute la France entière, 150 cinémas, du 3 au 9 avril. Le festival s'appelle joliment Play It Again, et il est sous-titré Les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, suivez bien. Ça veut dire 16 films d'hier, effectivement, du patrimoine, dont Monica, Embrasse-moi, Idiot, beaucoup, 2001 Odyssée de l'espace, d'autres encore, évidemment, une sélection jeune public pour voir dans de très très belles conditions, de très très beaux films. Que peut-on demander de mieux?
Sinon, Claire Burger, nous avons deux cadeaux pour vous.
Oui, un cadeau en situation, si je puis dire. C'est Visage Village, l'ultime film d'Agnès Varda avec JR. Le DVD est paru au Pacte.
On vous l'avez vu?
Avec
je
plaisir.
Ne l'ai pas vu.
Ah, bah alors,
super,
alors,
à moi. Merci beaucoup.
Vous allez vous régaler. Et puis, pour rester dans cet esprit nouvelle vague que Agnès Varda a raison, elle ne voulait pas adhérer, Jacques Rivette, La fiction au pouvoir, trois films rares et trois films restaurés, Duel, Norwa, Merry Go Round, et ce sont des films à redécouvrir avec une incroyable quantité de très très beaux bonus intelligents. C'est chez Carlotta, Jacques Rivette, trois films. C'est pour vous également, Claire Burger.
Merci.
Ça vous plaît?
Merci, oui, c'est très généreux de votre part, j'aimerais revenir plus souvent.
Quand vous voulez.
Sinon, il y a un autre festival qui se conclut ce week-end, c'est Série Mania à Lille, avec près de 60 000 visiteurs. C'est étonnant, on y était sais, mais c'est absolument dingue. Toutes les salles sont pleines. Et notre reportage, qui faute de temps aujourd'hui, n'a pas pu être diffusé, vous pouvez l'entendre et bien le retrouver sur le site de l'émission franceinter.fr.
Allez-y.
Et dans ce jury, il y a Thomas Lilti, qu'on aime beaucoup, qui avait réalisé Hippocrate absolument. Pour la série Canal. Et j'espère qu'ils donneront le prix à The Virtues de l'anglais Sean Mido. Vous savez, Sean Mido, il a commencé il y a 20 ans avec un film qui s'appelait 24/7 sur un club de boxe monté par Bob Hoskins. Ce qui est extrêmement frustrant à Lille, c'est qu'on voit une partie des épisodes.
Oui, ça vous a pas plu.
C'est ce qu'on appelle un coït interrompu.
C'est dit.
On va retrouver Agnès Varda dans le grand atelier demain dimanche, Vincent Josse. On va dire merci.
Avec Valérie Mérès.
Oui. Belle invitée. On va dire merci beaucoup à Céline Hila qui a réalisé l'émission et à Hugo Combes qui l'a préparé. Merci beaucoup Claire Burger. C'était un très beau film que le vôtre.
Très
il est sorti
beau.
Mercredi.
Merci.
Il s'appelle C'est ça l'amour, sans point d'interrogation, mais la question se pose quand même. Merci. Et le générique de fin, eh bien, il est réservé à la grande Agnès Varda. À la semaine prochaine.
Ben, on me demande de lire et d'interpréter le générique final. Donc, c'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs, actrices, il y a des acteurs, actrices, il y a des scénaristes, ah, ça ne va pas pour les deux, des chefs opérateurs, et... Non, mais non, parce que les chefs opérateurs, actrices, elles sont formidables. On en a en France des formidables. Alors, bon, les prises de vue sont des prises de son. Et, alors, Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par, ici présent, Christine Masson. Et Laurent Delmas, que je salue. Et moi, j'y étais à Agnès Varda, parce qu'il m'avait invité et j'ai pas dit non.